en état d'urgence climatique.
Plus chaud que le climat.
Il faut que nous entrions en désobéissance civile.
Animé par Alternative à Nantes
et le GIGNV.
Il faut que nous menions des actions non violentes, déterminées.
Résistance et alternative au changement climatique à deux pas de chez vous.
Nous allons continuer ce travail pour construire une autre société. Tout cela est à notre portée.
Bonjour et bienvenue dans la chronique numéro 3 de Plus chaud que le climat, qui sera également la dernière de l'année 2018. Comme chaque mois, nous sommes ensemble pour une quinzaine de minutes. Et aujourd'hui, nous allons parler des divers modes d'action anti-consommation, que ce soit à travers la résistance à l'agression publicitaire ou les moyens de consommer autrement, de consommer responsable. Alors, nous sommes trois au micro cette fois-ci. Qui est présent derrière le micro noir?
Derrière le micro noir, c'est Anto, comme par hasard.
Derrière le micro orange-rouge, hein, on va dire Sophie.
Et au micro jaune, c'est Fred. Et on remercie également Marius qui est venu nous donner un coup de main.
Merci Marius.
Alors, chers amis, commençons par parler de résistance à l'agression publicitaire et de publicité. Mais quel est le rapport en fait entre la publicité et le dérèglement climatique?
Eh ben justement, on va en parler avec, avec Sophie. Alors Sophie, déjà, on reproche déjà pas mal de choses à la publicité. Faut-il lui ajouter encore le reproche d'aggraver le réchauffement de la planète?
Oui, bah aujourd'hui, il semble aussi difficile d'échapper à la pub que d'échapper aux critiques qui lui sont faites. La pub, elle formate nos goûts, elle oriente nos choix, elle nous ment sur les produits qu'elle vante, elle peut. Elle favorise le surendettement, elle pollue l'environnement visuel et sonore, elle renforce le sexisme, l'obésité, l'esprit de compétition, etc. Ça fait un peu beaucoup tout ça. Aujourd'hui, on estime que du lever au coucher du soleil, on est exposé à un minimum de 400 messages et ça peut aller jusqu'à 3000 messages par jour.
D'accord, en effet, ça fait beaucoup de messages. L'exposition à la pub est permanente, la pub est envahissante, mais quel rapport avec le réchauffement climatique finalement? C'est la consommation qui est coupable, pas la publicité en particulier, si?
Bah, on peut réfléchir, hein, qui de l'œuf ou de la poule pour le coup. On ne peut quand même pas ne rien consommer et donc ne rien produire. Le problème, c'est la pub qui pousse, avec le succès que l'on sait, à surconsommer, c'est-à-dire acheter non pas ce dont on a besoin, mais ce qu'on désire. La pub, en fait, crée des désirs qui deviennent comme des besoins, être à la mode, avoir le dernier iPhone, changer de voiture, prendre l'avion pour une semaine au soleil. Et ces incitations à l'achat sont perçues comme normales et acceptables, alors qu'elles participent au réchauffement. Donc le réchauffement par davantage d'extraction de minerais, d'énergie fossile, de terres rares, par davantage de production et de transformation, par davantage de transport de matériaux, par davantage de gaspillage, car en fait on renouvelle et on jette l'ancien, et tout n'est pas recyclé. Donc toutes ces activités en fait sont dopées par la pub et produisent énormément de gaz à effet de serre. Et la liste est encore longue.
Alors justement, face à l'invasion de la pub dans l'espace public et dans nos vies, certains ont choisi de la dénoncer par l'action non violente. C'est le cas notamment des activistes de l'association Résistance à l'agression publicitaire. Un collectif vient d'être relancé à Nantes et il s'appelle la RAP, Loire-Atlantique Résistance à l'agression publicitaire. Et il a mené sa première action il y a très peu de temps, le mois dernier. On les écoute.
Là, je suis déguisé en homme sandwich pour du coup interpeller les gens et faciliter le contact. Pour aller du coup au contact des usagers et des acheteurs surtout, qui du coup en rentrant du boulot ont peut-être l'esprit à se changer les idées, et peut-être qu'ils sont en train de penser au Black Friday qui arrive, et peut-être qu'ils sont en train de penser à toutes ces promotions dégoulinantes qui vont arriver, et nous on leur dit bah écoutez, réfléchissez-y à deux fois, est-ce que vraiment vous avez besoin d'acheter? Si oui, est-ce que vous pouvez pas acheter autrement? Consommer malin, le recyclage, la location, l'achat groupé, l'achat à plusieurs, plutôt que directement aller vers le supermarché en achat individuel et neuf. On a plein de choses qui sont proposées. Là, du coup, mon but, c'est de rabattre un petit peu les gens vers les camarades et collègues, du coup, qui sont en train de détourner toutes ces publicités. C'est ça, mon rôle d'homme sandwich. Et j'essaie de le faire avec un maximum d'humour, du coup, pour garder un côté amical et sympathique, pour qu'on on a envie de créer du contact avec les gens. On n'a pas envie de les agresser. Justement, nous, on est là contre l'agression. Et donc, le but, c'est de les amener à penser malin, penser comme un citoyen, un éco-citoyen. Et donc avoir les bons réflexes d'achat. C'est pour ça que j'ai enfilé ce costume en carton recyclé, trouvé dans une magnifique poubelle.
Est-ce est-ce que vous ne pensez pas que ça incite des gens à acheter des produits dont ils n'auraient pas eu besoin?
Certainement, de toute façon ça pousse forcément à la conso. Après peut-être des gens ils font leur cadeau de Noël maintenant, je sais pas. Il y en a peut-être que ça dépanne un peu parce que du coup ils paieront peut-être des trucs moins chers.
Ouais, ils paieront des trucs moins chers, mais est-ce que ces trucs moins chers sont bons à produire pour l'environnement?
Non, de toute façon, on sait bien que notre manière de vivre et de fonctionner, elle n'est pas forcément bonne pour l'environnement. Et ça c'est sûr.
Et donc la pub en fait multiplie les mauvaises actions contre l'environnement.
Oui, bien sûr, ça je suis d'accord avec vous. Mais j'ai peur que dans le truc dans lequel on est lancé, ce soit compliqué de lutter contre. Alors après c'est bien, vous faites des trucs et tout, c'est bien de sensibiliser les gens là-dessus. Mais en vrai, j'ai peur que la machine soit lancée, quoi.
Ah, vous êtes pessimiste.
Un peu,
pas qu'on puisse retourner en arrière.
Franchement, peut-être que si, peut-être. Hein, mais j'y crois
si
pas
on
trop.
Y croit, si on est beaucoup.
Peut-être.
Si plein de gens se joignent au mouvement.
Vous avez raison d'être positif et d'être comme ça, c'est sûr. Mais après, je me dis que c'est quand même difficile de lutter contre des trucs. Des lobbies, certains lobbies, certains trucs, c'est compliqué quand même, on s'en rend compte.
C'est compliqué, mais avec la force du nombre, par exemple, si on crée un lobby citoyen et qu'on montre, parce que c'est la loi de l'offre et la demande, si on a personne qui veut plus d'un produit, les producteurs vont bien être obligés de changer leur manière de...
Parce que c'est nous aussi, en tant que consommateurs, qui avons les armes, le truc, hein.
Exactement.
C'est nous qui achetons ou pas les choses, donc effectivement.
Voilà. C'est vrai que la pub, par contre, peut nous enlever ce libre arbitre et nous faire faire des achats compulsifs. Par
forcément
contre.
Vers certains trucs. Ah bah oui, bien sûr.
Ouais. Ouais. Donc l'idée de lutter contre, vous êtes
ça,
plutôt.
C'est
dans
plutôt
le...
Ouais, je suis plutôt d'accord avec vous. Ouais,
ok. Bon bah c'est cool alors.
Alors si je résume, Sophie, la séduction de la publicité nous amène à acheter du rêve, mais elle participe à rendre notre vie sur Terre réellement plus cauchemardesque.
Bah oui, en fait, l'idéologie publicitaire nous rend inconséquents nos achats et nos pratiques. Elle nous amène à rêver, mais sans penser vraiment à l'impact que nos achats ont.
Et tu évoquais du coup, avant le problème des supports publicitaires, est-ce que l'on connaît la production annuelle de gaz à effet de serre de la pub?
Bah du coup, non. En fait, c'est une grande surprise, mais aucune étude n'existe actuellement, ni en France, ni ailleurs, comme il peut en exister sur les transports ou l'industrie bovine pour la publicité. Tout reste à faire. Il y a l'association Paysages de France qui nous fournit quelques chiffres intéressants. Par exemple, donc les panneaux lumineux à LED qu'on voit souvent dans les rues et de plus en plus d'ailleurs aujourd'hui à Nantes consomment chacun 110 watts par mètre carré. Donc imaginons, chaque panneau lumineux de 4 mètres par 3 consomme environ 6,9 kW par heure et par nuit. Donc ça ne vous parle peut-être pas, mais c'est énorme. Par ordre de comparaison, en fait, ça équivaut à la consommation électrique d'une à trois familles, donc selon les sites anti-pub, pendant 24 heures. Donc si je vous dis que certains sont numériques, vous pensez qu'ils consomment moins? Eh bien non. Paysages de France évalue leur consommation comme équivalent à celle de 30 foyers actuellement. Donc sachant que la France détient le record mondial du nombre de panneaux implantés dans le paysage, il serait quand même raisonnable de savoir le coût écologique de ce type de publicité.
D'accord, ok. Merci Sophie pour ces éclairages très pertinents.
Tout à l'heure, on entendait les activistes de résistance à l'agression publicitaire. Évidemment, on ne va pas forcément vous suggérer de devenir tous des activistes, quoique, pourquoi pas. Mais il y a d'autres moyens de s'opposer à la pub au quotidien. Et il y en a un, notamment, que vous connaissez peut-être, qui est de mettre tout simplement un stop pub sur votre boîte à lettres. Alors, on peut se dire, qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Mais si, en fait, c'est énorme, puisque un stop pub sur une boîte aux lettres, c'est à peu près l'équivalent de 40 kilos de déchets économisés par an. Donc c'est absolument pas négligeable. Dans ce monde de surconsommation, on va voir qu'il existe d'autres moyens de consommer autrement et de s'engager différemment, et notamment à travers les initiatives zéro déchet.
Tout à fait, c'est un vrai problème les déchets, car en France, chaque Français consomme en moyenne 12 tonnes de matière par an. C'est à peu près 3 fois plus que ce que la planète peut nous offrir, donc c'est déjà un chiffre qui est assez éloquent. Du coup, on aurait tendance à se demander comment changer notre mode de consommation pour réduire nos déchets. par exemple, à chaque fois que nous optons pour une alternative au neuf, nous économisons des ressources. C'est déjà une première chose. Donc en fait, en 2018, il y a l'association Zero Waste France. Donc Zero Waste, ça veut dire zéro déchet en américaine. C'est une association qui est internationale, qui défend une démarche zéro déchet et zéro gaspillage. Alors cette association, elle a lancé un grand défi pour questionner nos modes de consommation et limiter notre impact sur l'environnement. C'est le défi « Rien de neuf ». Le principe de ce défi, c'est de limiter au maximum les achats de produits neufs en privilégiant les modes de consommation alternatifs.
Pour avoir un peu plus de précision sur cette campagne « Rien de neuf » par Zero Waste, eh bien, on est tout simplement allé rencontrer Nicolas, qui fait partie de Zero Waste Nantes. On l'écoute.
Donc rien de neuf, ça consiste à d'abord changer ses habitudes de consommation et sa vision de la consommation. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire un nouveau cheminement de pensée. Quand on réfléchit à un nouveau besoin, qu'habituellement on remplirait par un achat neuf, on va d'abord se dire, d'abord, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Ensuite, est-ce que j'ai pas un ami qui pourrait me prêter la chose dont j'ai besoin ? Ensuite, est-ce que je peux pas le trouver d'occasion ? Que ce soit sur Le Bon Coin ou en ressourcerie. Et enfin, si vraiment j'ai aucune alternative et que pendant tout ce laps de temps où j'ai réfléchi, où j'ai cherché des alternatives, où finalement j'avais pas l'objet en question et je m'en suis sorti sans, bah finalement je refais la boucle, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Et si oui, dans ce cas, on ira acheter neuf. Pour moi, tourner le dos à la société de consommation, c'est prendre dans sa globalité le mode de vie zéro déchet, à la fois par l'aspect rien de neuf dont on vient de parler, où là, l'achat neuf, ce serait vraiment l'achat de dernier recours, si on a épuisé toutes les solutions alternatives. Ensuite, par l'achat, on va dire, zéro déchet, c'est-à-dire les courses en vrac, ou privilégier le marché local, on va aller vers des producteurs locaux qui ne sont pas dans les grandes distributions ou autres. Et c'est comme ça qu'on sait à qui on donne son argent, on sait qui est-ce qu'on soutient. Et du coup, on ne soutient pas la société de consommation standard. Et on promeut le mode de vie zéro déchet et une meilleure traçabilité de nos consommations. Alors il y a beaucoup de choses en ce moment qui sortent sur les réseaux de cadeaux alternatifs, qui soient faits main, faits local ou par un artisan. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est de privilégier le cadeau utile, c'est-à-dire vérifier le besoin des gens à qui on souhaite faire un cadeau, histoire d'acheter vraiment quelque chose qui leur soit utile. Et si on n'a rien trouvé d'utile, ben on peut offrir du temps. Par exemple, à un enfant, on peut lui offrir un bon pour fabriquer un jouet en bois de récup. Donc on fabrique un petit bon en papier très joli. Et puis on lui dit, ben voilà, la semaine après Noël, je prends du temps avec toi pour aller en ressourcerie, récupérer du bois, récupérer des clous. On va essayer de construire un petit objet et puis on le fera ensemble. Et ça fera un jouet local avec du matériau de récupération qui ne sera pas fait par d'autres enfants en Chine, par exemple.
Pour conclure, on vous donne quelques suggestions pour notamment faire vos cadeaux de fin d'année sans consommer à outrance, parce qu'en fait, ça ne manque pas les initiatives sur Nantes. On peut vous conseiller, par exemple, d'aller faire un tour à la ressourcerie de Lille qui vous propose plusieurs rendez-vous spéciaux jusqu'au 22 décembre. Les Écosolis vous proposent à nouveau l'autre marché qui n'est plus au Square d'Avier désormais, mais à la pointe de l'île Feydeau. Très récemment, l'association Nous & Co a ouvert la boutique du partage dans le quartier du Breil, rue des Plantes. Citons aussi le supermarché du réemploi, créé par Station Service, qui a pris place dans le quartier de la Bottière. Et on vous donnera, comme d'habitude, des informations complémentaires, d'autres conseils sur la page du podcast de l'émission. Place maintenant à la rubrique « Le climat et moi et moi ». On reste dans l'alterconsommation et le zéro déchet avec Aurélie, qui pratique l'art méconnu du futoshiki.
Bonjour, je suis Aurélie Lemarec de l'atelier du Furoshiki. J'ai créé l'atelier du Furoshiki donc en 2009. Alors le Furoshiki, qu'est-ce que c'est ? C'est une technique donc japonaise de pliage et de nouage de tissu qui va permettre avec un carré, quelques nœuds, de faire toutes sortes de sacs et d'emballages cadeaux. C'est une technique écologique puisqu'elle va permettre de limiter à la source la consommation de sacs plastiques et d'emballages papier, notamment les emballages cadeaux. C'est une technique qui est modulable, réutilisable, donc du coup hyper pratique puisque juste avec un carré, on peut faire plein de choses. Ça va être le sac pour les courses, pour le sport, pour transporter les livres à la bibliothèque. On peut transporter sa guitare, enfin, toutes sortes, faire des sacs à langer. C'est une technique qui peut aller aussi à tout le monde, puisqu'on va utiliser des textiles différents, de préférence de la récup, pour lui donner une deuxième vie en furoshiki, pour faire un sac à déjeuner, par exemple. Et puis, quand il sera trop usé, eh bien, on pourra toujours le mettre dans une borne de collecte, type relais, par exemple. Et là, ils pourront en faire des chiffons d'essuyage pour l'industrie ou, par exemple, de l'isolant thermique et phonique, donc qui remplace, par exemple, la laine de verre. Donc, du coup, c'est vraiment plus écologique et ça rentre dans la règle des 3 R, réduire, réutiliser, recycler. Hein. Et puis, idem pour les papiers cadeaux. Hein, c'est la période des fêtes. Il y a plus de 50 millions de rouleaux de papiers cadeaux qui sont vendus chaque année et en France, souvent, ils ne sont pas recyclables. Donc, du coup, ça fait aller une minute pour le faire, 2 secondes pour l'arracher et des tonnes de déchets pendant les fêtes. Alors que le furoshiki, lui, il peut emballer un cadeau, on l'offre, la personne peut l'utiliser en sac à déjeuner, par exemple, ou en foulard, pourra leur réoffrir un cadeau emballé dans ce même furoshiki. Et puis, du coup, ça va tourner de famille en famille, d'amis entre amis. Ça va se charger aussi d'une histoire, donc c'est assez, assez sympa. Et puis, il n'y aura plus de déchets en période de fête au niveau des emballages cadeaux, en tout cas. Donc, moi, je suis arrivée au furoshiki par le biais de la pratique de la cérémonie du thé japonaise. Donc, voilà, dans la cérémonie du thé japonaise, on utilise le furoshiki pour transporter les objets de cette cérémonie et pour les ranger, en fait, lorsqu'on ne s'en sert pas. Et puis ensuite, j'ai découvert que c'était vraiment tellement pratique, simple à utiliser, parce que juste avec un carré de tissu, on peut faire toutes sortes de choses. Le principe du furoshiki, c'est que le contenant s'adapte au contenu. Ça rend plein de services différents. Et puis, donc moi, ça faisait des années que je réutilisais notamment les emballages cadeaux. Et c'était jamais satisfaisant parce qu'il y a du scotch, parce que c'est froissé. Si on utilise du papier journal, selon à qui on va l'offrir, c'est pas toujours très esthétique. Enfin, voilà. Donc du coup, quand j'ai découvert cette technique, je me suis dit, mais c'est vraiment génial parce que c'est pratique, c'est ludique et c'est du coup, c'est écologique puisqu'on le réutilise autant de fois qu'on veut. Et après, j'ai eu envie de le faire partager au plus grand nombre. Donc, j'ai créé l'atelier du furoshiki en 2009 pour justement sensibiliser les gens à cette technique. Donc, j'organise des ateliers de pratique. Hein. Souvent, quand on pense au pliage japonais, on pense origami. Donc, on se dit, oh là là, mais c'est précis, c'est un peu compliqué. Mais là, pas du tout. On travaille plutôt dans le flou hein, du textile. Donc, du coup, c'est rapide, c'est simple. À partir du moment où on sait faire des nœuds, donc à partir de 5-6 ans, on va pouvoir commencer à pratiquer. Je suis partie du réseau Écopole, donc dans le CPIE pour l'éducation pour l'environnement, où je fais plein d'ateliers justement pour montrer aux gens comment récupérer des textiles qu'on a chez soi pour en faire des furoshiki, notamment en période de fête. J'essaye aussi, dans le souci de le faire découvrir au plus grand nombre, je fais aussi des ateliers adaptés au handicap visuel notamment. Donc j'essaye d'élargir au plus pour tout un chacun, parce que je trouve que c'est une technique vraiment qui doit être connue pour ceux qui ont envie d'œuvrer un peu pour la planète et faire un petit éco-geste qui est sympa, qui est esthétique en plus, et puis qui a un vrai impact sur la limitation des sacs plastiques et des emballages cadeaux.
Plus chaud que le climat, c'est terminé pour aujourd'hui, c'est terminé pour l'année 2018.
Pas cool.
Eh ben si. Oui, mais on revient, voilà. On revient en 2019 et du coup, on va quand même en profiter pour souhaiter des bonnes fêtes.
Bonnes fêtes.
Eh ben oui, joyeuses fêtes de fin d'année.
Et oui, à vous aussi. Et puis, il y a tout de même un rendez-vous aussi important qui va avoir lieu très très bientôt, hein, dès cette semaine. C'est samedi, au Miroir d'eau, à partir de 14h. Il y aura le Climate Alarm, c'est-à-dire la marche pour le climat. Hein. Ça se passe à Nantes, dans tout un tas d'autres villes et à travers le monde. Hein. Plus de 140 villes partout dans le monde. Une grande marche citoyenne pour le climat, pour nous faire entendre.
Oui, ramenez vos tambours, vos casseroles et tout ce qui fait du bruit.
On vous attend nombreux.
Exactement. Au revoir les amis.
À l'année prochaine.
Salut.
Ciao.
En état d'urgence climatique. Plus chaud que le climat.